CSE, soit parce que des gens les intéressent, peuvent empêcher de colonier la planète.
Si vous souffrez, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir.
Soit parce qu'ils sont assis, ces extraterrestres, en morceau de titane ou d'autres choses, ils font des mensonges inutiles. Mais vous savez que le monstre qui s'opéra, ça date que de 1941. Alors qu'on en écrivait bien avant, des gens comme Doc Smith, Hamilton, Williamson, etc. Et c'est un écrivain américain, Wilson Tucker, qui avait d'autres ambitions de décrire des histoires de conquête, qui a, par dérision, appelé ça Space Opera. Les gens l'appellent Space Opera puisque le mot est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors le Space Opera a évidemment évolué jusqu'à maintenant, puisque le Western Galactique est devenu un genre de science-fiction qui permet de parler de politique, de sociologie, de technologie, etc. Et on va comprendre que peut-être un des chefs-d'œuvre du Space Opera, c'est l'univers de la culture de Ian Banks. Et bien voilà, aujourd'hui, on va parler de Space Opera avec Christian Lurier.
Ces images qui ont suscité à moi l'époque de cette
seul, loin dans le temps et dans l'espace.
Non seulement je serais curieux de savoir si Philippe Nord a lu le livre de Robert Merle sur le même sujet.
Il doit répondre oui, le film.
Je vais répondre avec deux voix, parce que d'une part, je suis ici en tant que Jean-Luc Trudel, mais je suis aussi ici en tant que la moitié de Laurent McAllister, dont nous parlons peut-être plus tard. Moi, j'ai longtemps baigné dedans. Ce que j'aime à dire, c'est que quand j'étais petit déjà, je lisais, ou ma mère me lisait les aventures de Danny Futuro, héros de Space Opera dans les pages de la revue Tintin il y a très longtemps, espagnol à l'origine d'ailleurs. Et après, j'ai tout fréquenté, y compris Ian Banks et bien d'autres auteurs. Jeunesse, ben ça, je pense que ça s'inscrit plus ou moins. C'est vraiment qui se passe dans l'espace. Décolle de deux choses. D'une part, j'ai une histoire du futur qui se déploie sur plusieurs millénaires, dont la bande, enfin, les bandes plus lointaines que j'ai explorées. Je les ai explorées avec mon adolescence à peu près. Ça se passe vers l'an 4000 et quelques. Et par la suite, lorsque j'ai commencé à publier pour jeunes, on peut dire je suis rapproché du présent, plus ou moins, mille ans dans le futur, des choses comme ça. Et, ben pour moi, donc, dans cette histoire du futur, il était clair qu'il y avait un mouvement d'expansion, de colonisation. Ce n'était pas aussi ambitieux que d'autres univers. Je pense que Laurent Genefort a quelque chose comme 20 000 planètes habitées dans son univers à lui. Je pense que, à l'époque du roman jeunesse dont on parle, l'ère du Nouvel Empire est souvent question des 200 mondes. Donc, c'était. Quand même suffisant pour procéder presque. Et donc, l'ère du Nouvel Empire s'est inscrite là-dedans. Et avec 200 mondes explorés, ce serait franchement un peu ennuyeux d'avoir une action de roman jeunesse uniquement sur une planète. Alors, toutes ces possibilités dans l'espace. Quant à la suprématie de Laurent McAllister, c'est un projet qui est né il y a 25 ans à peu près, lorsqu'il mena et moi, on avait commencé à remuer-ménager, comme on peut en dire partout. C'est justement un projet de Space Opera parce que le projet de Laurent McAllister, qui est un projet en soi, avait à la base comme maxime de ne jamais se répéter. Alors, déjà, au début des années 90, on avait signé la nouvelle Cyberpunk, on commençait à penser peut-être à un roman jeunesse. Et on s'était dit aussi, bon, ben, pour quelque part dans la liste, on va cocher la case Space Opera. Et on avait commencé à imaginer un Space Opera qui, il y a 25 ans, vers 1990, serait à la pointe de modernité, une sorte d'alliance du cyberpunk et du space opera avec une passerelle virtuelle dans un grand vaisseau spatial. Il y a eu après des romans de Werner Wind, qui ont exploré les mêmes choses, mais je peux pointer les nouvelles que j'ai écrites dans les années 90 qui montraient qu'on était des compromis. On avait déjà pensé à certaines de ces choses, à peu près en parallèle avec les Américains. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en termes de genèse de ces Space Opera que j'ai signé, c'est à peu près ça.
Question de Space Opera, tu as choisi parce que c'était plus facile en fin de compte que tout inventer et tout imaginer.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, je suis revenu au Space Opera parce que c'était par le Space Opera que j'ai découvert la science-fiction quand j'étais jeune. Donc là, je sortais de deux romans très ambitieux du point de vue du style, du point de vue de la construction. Et j'ai voulu retrouver un petit peu l'ingénuité de ce que je faisais quand j'avais 15 ans. Où effectivement,
version, mais il faut pratiquement plus que les 5 pages pour changer les données.
En fait, quand tu écris ce script data, est-ce que tu penses faire un western à la John Ford, quand tu couches les fantastiques et que tu remplaces la diligence par l'astronaute?
Effectivement, il y a un certain entre western et l'espèce opéra. Le petit coup de poste fourni éventuellement par Jean-Claude Vignac pour
ça a été un bordel quand je te disais. Je viens de l'écrire la science-fiction d'une façon absolument remarquable. Ça m'arrive une fois par an d'avoir une inspiration comme celle-là. La suite l'année prochaine. Le code du démiurge est particulier parce qu'au début, ce n'était pas un roman, c'était censé être une nouvelle. Et j'ai commencé à développer l'idée de l'univers et à questionner, à me dire bon, tel personnage va faire ceci, va faire cela, il y a tel enjeu. Et il y avait toujours les inspirations premières, les images que la musique m'avait apportées, ainsi que l'histoire des réalités du monde ici. Mais à force de dessiner mon univers, je me suis rendu compte que c'est une satire qui est intéressante. Ici, il y a un hiatus, ici, une race, comment ça fonctionne, comment on voyage dans l'espace. Et petit à petit, je comprends que j'ai des lacunes, c'est juste une nouvelle question, et ça a pu être un peu comme un champignon. Et je me suis ramassé avec une nouvelle là, et puis un roman, et puis ça s'est scindé en deux, parce que c'est un fait diptyque de science-fiction qui est publié sur une intégrale. À travers ça, il y a eu toutes sortes de préparations, en effet. Au moment d'imaginer, je me souviens que j'avais structuré mes dossiers en catégories. J'avais commencé par imaginer la planète où mes posthumains sont prisonniers, un petit peu l'île de Pitcairn de mon univers. J'avais regardé comment la géophysique était organisée, comment la météorologie était faite. J'avais regardé, j'avais posé des questions au niveau astrophysique de quelques personnes. Et ça m'a édifié parce que je ne suis pas astrophysicien, je suis biologiste à la base. Ensuite, de la planète, j'ai essayé d'imaginer comment une faune, une flore pourrait être gardée dessus, pourrait vivre. De là, j'ai imaginé les habitudes de vie qu'on développait sur cette planète, le système de société qu'on devrait avoir. Et je suis allé un peu au valeur de mes protagonistes, et tout ça, donc j'ai été un peu par étapes. Mais ça s'est fait de processus. Et puis, comme ça, ça a l'air très linéaire comme processus, mais c'était en fait l'itératif, ça revenait. Et l'étape 3 a changé l'étape 1, qui a changé l'étape 5, etc. Je parle de bordel constructif. Oui, ça allait dans une direction, mais ça s'est marqué un peu.
Donc, je trouve pour beaucoup de, je veux dire, devant le foisonnement d'imagination, le foisonnement des choses que chacun des personnages doit faire, que chacun des lecteurs doit avoir. Quoi que tu prennes dans ton roman, tu t'y retrouves dans tes généalogies, tu t'y retrouves dans des espèces d'agrandes, comme les naturalistes du.
J'avais des notes, j'avais des schémas, j'avais le plan des villes, le plan des pièces, j'avais des chronologies. La vie du personnage, j'avais des fiches de personnages, j'en avais un peu les auteurs de bande dessinée font. J'ai fait des dessins aussi, j'ai dessiné mes personnages. J'avais beaucoup de références visuelles aussi, j'ai un dossier de références visuelles d'une épaisseur comparable à celle-ci. Surtout des étoiles de Salvador Dali, qui a inspiré certains animaux machines. Sont montrés dans le roman. Donc, c'était une recherche vraiment exhaustive. Ça me faisait penser aux recherches que font certaines BDS, d'ailleurs, au sujet des visuels. Donc, c'était assez varié. Ça, ma préparation a pris plusieurs formes. Mais l'avantage, c'est qu'à la longue, il y avait tellement une grande cohérence entre les différents éléments de l'univers que l'écrire l'histoire a été relativement facile. Ça a été long, ça a été l'ouvrage, le travail aussi. Mais jamais j'ai été arrêté longtemps parce que j'y avais pas pensé à des détails ou ça c'était pas clair ou non, tout était clair à m'arrêter au moment de coucher sur le pays, ça s'est fait très facilement.
Question. J'imagine là un univers avec plein d'extraterrestres, alors vraiment le tout début, de toutes les formes extraterrestres qui pourraient exister, nous avons fait récemment dans l'introduction au prologue à ton bouquin. Comment ça vient de lecture, de lecture scientifique, ou bien c'est pour l'imagination?
La description qui était annoncée, tout simplement, qu'est-ce que la science, sinon la faculté de faire des listes, des taxonomies. En zoologie, on a connu une évolution, c'est-à-dire que toute la classification que j'apprenais quand j'étais petit, ce genre de paradis. Tout ça, je peux l'oublier, puisqu'on a, avec la théorie des clans, on a complètement changé. Donc ça, c'était pour le musée, effectivement, essayer de faire une catégorisation des différents extraterrestres possibles. Mais il est évident que moi, quand j'écris une histoire, je sais où je vais, même quitte à changer la
fonctionnement partenogénétique. Hermaphrodite s'exprime en deux multiples métamorphes, binaires ternaires, endogènes, exogènes, avec tous les ensembles et sous-ensembles et toutes les combinaisons, l'autorité, l'imagination. La psychologie et le comportement sont des facteurs plus difficiles à cerner. Mais néanmoins, intuition, on ne va pas continuer. Mais avec ça, tu te donnes une ampleur assez considérable, avec une ampleur considérable à ton moment.
Oui, bien, ça, c'est aussi une prochaine. Parce que, ouais. Ça permet de caractériser par la suite l'être humain en fonction de ces catégories-là.
L'être humain est assez maîtrisé par les autres.
Qui est assez maîtrisé parce que finalement, c'est un organisme assez simple, avec un seul cerveau, et qui, en plus, sur un comportement.
Puisque après la signature du contrat avec Bajlan, on
on s'est réunis dans les rentiers, au nord de Montréal, dans un petit chalet qui appartenait à la blonde, on a reménagé. Pour se rappeler d'une part, on a fait un livre qu'on avait écrit 20 ans plus tôt. On a aussi dénoncé à ses entrepôts pour construire la logique de la chose. Donc, l'intrigue de l'action, c'était à la limite l'étape numéro un. Les personnages étaient après tout posés depuis un certain temps, les principaux avaient été posés 20 ans plus tôt. Après la construction du monde, on a fait. Lorsqu'on a une certaine expérience comme écrivain de SF, on a des méthodes, des procédés, on a l'idée très claire qu'on se sent monde à la fois utile pour étayer l'intrigue et l'action, mais elle est aussi utile pour l'immersion. C'est-à-dire que d'une part, il y a eu une partie de construction de monde minimale pour savoir comment ça se passait, à quoi ressemblait le vaisseau, ses dimensions. Et là-dessus, il y avait des choses que j'avais faites, ou du temps où j'ai fait en astronomie, je ne me souviens plus tout à fait des circonstances, mais on avait décidé que l'action se passerait dans un système astellaire ouvert, mais très jeune, qui est associé à l'étoile Phi de Cassiopée, tout à fait imprimée par accident, parce que l'étoile, je pense, n'a pas le bon âge pour être dans cet amas. Et donc, il y avait déjà un emplacement dans la galaxie, 7000 années-lumière de distance, certaines caractéristiques, les étoiles devaient être jeunes, donc les planètes seraient exceptionnelles. Et après, il y a eu la construction de monde, comme tu disais, avec des outils informatiques qu'on avait appris à connaître au siècle présent, et non pas au siècle dernier qu'on avait commencé le projet. Donc, on a utilisé des fichiers Excel pour avoir une idée de l'organigramme des genres de l'équipage du vaisseau principal, le DOC, qui est au centre de l'action. Moi, j'ai utilisé Google SketchUp pour créer des modèles en trois dimensions de certains milieux du roman. C'était un exercice intéressant qui, parfois, comme je dis, était moins important pour disons, la cohérence, mais plus important peut-être pour l'immersion. J'ai créé un modèle en trois dimensions, disons, du quartier général du renseignement. De la section du renseignement à l'intérieur du vaisseau. Et bon, ça me prenait quelques heures peut-être en m'inspirant d'une ébauche d'Antonio Santelia, l'écrivain futuriste du 18e. Et après ça, j'étais allé en faire ce travail. Les choses avaient percolé à l'arrière du cerveau et j'étais prêt à écrire le scène qui se passait là. De mémoire, ça décrit certaines des choses qu'on a faites.
Les problèmes sont aussi sophistiqués chez vous. Cette maturation technologique, scientifique.
Oui, je peux te remercier de faire des fichiers Excel moi-même. Ah oui, des fichiers Excel, j'en ai employé. Il y a Google SketchUp, je connais pas celui-là, ça serait intéressant avec vous. Vous faites du 3D,
c'est vraiment la source de regarder le capteur.
Non, je prends le pour le prochain. Mais je vois le même souci, le même côté maniaque.
Une chose quand même, c'est qu'on a fait une présentation à Montréal l'année d'après la publication. Et ce que j'avais quand même montré en affichant les fichiers Excel à l'écran, c'est en fait à quel point aussi il y avait dans des pages complètement vides parce que même si on avait l'organigramme, on ne s'était pas amusé à trouver les noms pour les 600 membres d'équipage. Donc il y avait une sorte, c'est un peu quand même un village Potemkin, ce genre de création de monde.
Comme dans un générique, on pourrait écrire technicien ou alors, je ne sais pas, client retard, etc. Parce qu'ils apparaissent dans la scène, après la peine de les mauvaises. Et tu sais, moi, je vous vois tous, je suis très fier, parce que moi, j'ai publié deux articles scientifiques sur les bases que j'ai utilisées dans le monde. Et en fait, j'ai fait les articles un peu avant la fin du futur et tout, et ils ont été publiés avant l'apparition du Covid. Et ça a l'air de te paraître bizarre, mais c'est un travail. Mais sans ça, ça ne tient pas. Il y a un besoin, sinon ça...
ça marche pas. Et j'ai dit non, parce que les parois de la valise sont complètes. Bon, il m'a repris sa calculette, il m'a dit oui, tu as raison, et on est passé à autre chose.
C'est clair, c'est vrai, c'était dans mon salon, il y avait des noirs. Ça reste le
problème. Mais il avait fait plein de trucs. C'est normal, vous voyez ce que je veux dire, c'est normal, parce que c'est pas grave, j'aurais pu dire, bah, tu es qu'il en s'en foutait. Vous en seriez foutu. Mais quelque part, la raison pour laquelle elle a fait c'est que la valise dont je parle en une ligne, elle est parfaitement claire dans mon esprit. Et c'est parce qu'elle est parfaitement claire dans mon esprit que c'est pas un machin de carton pâte, c'est un vrai machin. Cela dit, je pense que c'est pas vrai. Ce que je raconte, c'est pas vrai du tout. Mais ça pourrait.
Personnages, qu'ils soient humains ou non humains, qui interagissent dans le livre, ils
sociologie. Donc il faut aussi imaginer leur rapport entre eux.
Oui, ça fait partie du travail de Robbie Ménage. Il y avait dans suprématie à l'intérieur de cet homme-là qui est une petite partie de la galaxie, mais qui est tout l'univers, on pourrait dire, de suprématie, même s'il y a des. Si on se rend bien compte qu'il y a tout un univers à habiter au-delà de cet amas, c'est une sorte de nouveau lotissement où les races ont commencé à s'installer, à coloniser les planètes depuis un certain temps. Les humains sont là et puis il y a les suprémates qui commencent à vouloir imposer leur mode de pensée unique. Certaines races sont apparues, je pense, pratiquement pas dans le roman, d'autres ont une place un peu plus développée. Dans certains cas, on a développé leur métaphysique, leur relation avec les autres, encore une fois, selon les besoins de l'intrigue, et dans certains cas, donc, nous n'avons aucune idée, en fait, peut-être, la sociologie de certaines des races. Mais alors, il y a eu des interactions où là, ça nous amusait de développer un peu. Je me souviens d'un retour de convention avec, je pense que c'était peut-être Joël Champetier et compagnie, ou au resto, tout d'un coup on a discuté un peu, on a eu l'idée de quelque très caractéristique pour une de ces races. On a noté ça, et on l'a mis plus tard dans le roman.
Jean-Claude, dans l'étoile morte, il y a aussi 80 mots. C'est là aussi, ce sont des installations sociologiques.
Ce sont des installations sociologiques, c'est clair. Ce sont des êtres humains, des êtres humains dérivés. Ce sont des êtres humains qui sont partis dans une voie qui ne sont plus tout à fait humains à notre sens. Il y a un mot particulièrement pénible qui est important pour nous écrivains qui s'appelle la mythopoïèse, c'est un mot chiant. Il y a des mots qui pourront l'utiliser, donc c'est pas une pratique. Ça dit grosso modo tout ce que pense l'ensemble des mythologies, des pensées, de ce qui justifie le monde, de la race dont on parle. Une race qui regarde le monde en disant comment mon métier a été créé, quel est mon rôle dans ce monde, comment en est-on arrivé jusqu'à moi, comment est-ce que le monde me demande d'être regardé. Et toutes ces choses-là, c'est la mythopoïèse. Et on est obligé de faire ça. C'est-à-dire que vous avez une race qui constitue l'information, vous avez une race qui constitue le guerrier, et une race qui est organique, et une race qui est un petit une fin de race. Comment voit-il le monde et comment le monde leur parle-t-il? Quelle est la naissance associée à ce monde? Et j'ai fait un atelier d'écriture mercredi. Je dis aux gens, ça c'est quelque chose de fondamental à mettre en place. Vous avez par exemple une planète entièrement recouverte d'eau. Vous avez des gens qui vivent à la surface de ce monde. Ils peuvent être sur des radeaux, sur des objets technologiques très compliqués, j'en sais rien, c'est votre problème. Mais à partir du moment où elle est entièrement constituée d'eau, il n'y a pas de terre pour le vocabulaire relatif à la terre a disparu. La terre, on compte manger longtemps. Donc il n'y a plus d'arbres, il y a tout un tas de couleurs qui ont disparu. Il y a par contre énormément de choses en relation avec la mer qui demandent des mots nouveaux. Et donc, comment ces gens ont-ils été créés, comment leur univers a-t-il été créé et comment eux-mêmes s'inscrivent dans cet univers-là. Et quand on a compris ça, on a généré l'étrangeté. On a généré le sentiment d'être dans un endroit extraordinaire et d'habitude. Et ça, c'est un travail fondamental pour un écrivain de se dire, je ne prends pas quelqu'un comme moi et je le projette là, à 3 000 milliards d'années-lumière, dans une planète complètement différente, il va être pareil. Non, il ne va pas être pareil. Il ressort une histoire. Cette histoire est totalement différente de la mienne. Sa vision du monde est totalement différente de la mienne. Ses dieux, ses croyances, ses mythes, son sentiment d'être compris par le monde et d'avoir compris le monde sont différents. Et quand j'ai compris ça, moi j'ai compris les gens qui sont. Et quand j'ai pas compris ça, ce n'est pas la peine de laisser les données. Effectivement, dans ce qu'on appelle la coopération, la construction d'une société, c'est effectivement fondamental pour deux raisons. La première, c'est ce que tu viens d'exposer, c'est-à-dire, effectivement, c'est ce qui donne la cohérence à un monde. On pense par exemple à un bouquin de recueillement de Jason Point, où les êtres sont sur une planète à très très forte gravité. C'est-à-dire que dès qu'ils s'élèvent d'un mètre, ils risquent la mort parce que. Signifie pour eux que, évidemment, tout ce qui est bien est en bas et tout le mal vient du ciel. Ça, c'est la première, la cohérence, la première importance. La deuxième importance, c'est de quelque part nous inciter à réfléchir comment nous voyons le monde et quels sont les conscience. Je vais donner un dessin, l'exemple de la référence. Les chaînes de cœur sont complètement inversées. Ce qui est en l'air, ce qui est en haut, est plutôt bien. Le paradis, c'est là-haut, hein, c'est pas en bas. Et ce qui est sur terre, c'est plutôt ce qui est mal, ce qui est la souffrance. On peut se demander pourquoi, pourquoi on arrive à cette construction-là. Et là, on est dans le rôle, alors, cette fois, d'un peu philosophique de la science-fiction qui est de nous faire réfléchir finalement à nos propres conceptions. Parce que derrière les aventures, etc., il y a évidemment ce problème-là quand même.
Il ne faut pas croire à ça, et dans la vie réelle, et on bute là-dessus quelquefois d'une façon absolument violente. Moi, il m'est arrivé, enfin, il est arrivé à des amis avec qui il travaille une histoire assez fascinante, et on travaille pour Ingénieurs sans frontières. Et il y a quelques années de ça, Ingénieurs sans frontières, c'est des gens qui vont sur le sol et essaient de développer des techniques extrêmement simples, faciles à mettre en place, faciles à montrer, faciles à maintenir, qui peuvent aider des gens dans une situation très compliquée à améliorer leur vie. Ça peut être l'équivalent de la brouette, par exemple. Quand vous avez une population qui n'est pas la brouette, vous pouvez ramener la brouette, ça leur permet de manger mieux, ça leur permet de vivre plus longtemps, ça leur permet de produire plus de choses avec leur journal et de moins travailler. Et parmi les choses qu'ils ont trouvées, par exemple, il y a un moyen de faire du froid, ou tout au moins de garder une partie refroidie. Vous mettez deux jarres en terre cuite, vous en prenez une, vous en mettez une beaucoup plus grande, vous mettez la petite à l'intérieur de la grande, il y a donc un espace entre les deux, vous remplissez cet espace de terre, vous mouillez la terre en question avec de l'eau qui n'a même pas besoin de prendre, vous pouvez appuyer dessus, et le simple fait que l'eau s'évapore entre les deux va faire que la partie intérieure, la jarre intérieure, si elle n'est pas vernie, si elle est préparée de cette façon, va être beaucoup plus froide. Beaucoup plus froide, ça peut être 4-5 degrés, quelque chose comme ça. Et il parle de l'évaporation. Hein. C'est le même principe qui permet aux gourdes, les gourdes qui s'évaporent, les gens du Pays Basque, là, les pourrons, d'avoir de la liquide qui reste frais, parce que ça suinte un peu, et l'évaporation du liquide qui suinte permet de faire la particularité. C'est facile. Montrer ça à quelqu'un en lui disant, tu sais faire une poterie, ben, écoute, t'en fais deux, tu mets deux, tu mets de la terre, et tu mets un peu d'eau dedans, et ça te débrouille. C'est facile, il n'y a pas de problème de maintenance, quand c'est cassé, vous en faites une, c'est simple. Ça marche très bien dans l'Afrique subsaharienne, on a permis à un certain nombre de villages de faire ça. L'avantage, c'est que quand vous ramassez vos légumes, vous n'êtes pas obligé d'aller les vendre au marché tout de suite, vous pouvez attendre un jour ou deux, donc vous pouvez faire deux récoltes, et vous pouvez les amener au marché en plus grande quantité, perdre moins de temps à faire le voyage jusqu'au marché de revenir, et vous avez une productivité qui s'accroît, c'est plus facile. Sauf quand vous tombez dans un pays, et je crois que c'est une sorte exacte, c'était Borneo, où ils en prennent plein de trucs, etc. Et là, gros problème, là-bas, l'enfer est froid. Et donc, la raison pour laquelle c'est froid, c'est que tout simplement, cette technique-là, on formait un démon entre les deux machins. Donc, il est hors de question de manger des légumes qui ont été au contact du démon, puisque le froid apparaît du démon. Il n'existe pas d'autre façon de produire du froid que quelque chose qui vient de l'enfer. Et on se rend compte que pour expliquer que ça marche, il faut leur faire 500 ans de science pour leur simplement qu'ils comprennent le concept. Mais on abandonne l'idée. On ne peut pas leur donner cette idée, même s'il est technologiquement très facile, parce qu'on leur a fabriqué ça pour les démons. Vous n'avez pas le temps. Et donc, vous avez des êtres humains comme vous, qui ont une mythopoïèse complètement différente, et à qui vous ne pouvez pas dire, tu vois, c'est super, on va parler avec des démons, qui leur disent, non, on a un machin pour capturer les démons, vous allez voir, on va pas parler. Je parle d'un truc réel, maintenant, là, ça s'est passé dans les années 90. Thank you.
santé publique, qui est tout à fait horrible et ennuyeux. C'était une horreur d'avoir fait là dans les cours, mais il y avait un tableau dans le milieu qui recensait les 52 valeurs fondamentales qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines, peu importe sur la période ou sur la planète. Et ces 52 valeurs étaient classées en 8 grandes catégories. Et ce qu'on le tableau nous montrait, c'est que les valeurs qui sont dans une catégorie donnée peuvent s'opposer aux valeurs d'une autre catégorie. Elles sont pas ces valeurs séparément, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Par exemple, l'accomplissement personnel dans une catégorie et le souci de l'autre dans une autre catégorie. Au moment de construire une société, j'essaie de voir à quelle grande catégorie de valeurs elles s'inscrivent pour que ce soit cohérent et aussi pour créer des sociétés qui sont contrastées, qui ne pensent pas la même chose. Et j'essaie de faire le même exercice pour mes personnages. Je n'aime pas créer de bons et de méchants, mais j'aime créer des personnages qui ont des valeurs qui vont s'opposer. Mais, on y pense séparément, on ne peut pas dire s'ils sont bons ou méchants. Donc, pour revenir à la question de départ, est-ce que je fais de la techno-ethnologie, de l'exo-ethnologie. J'ai pas eu un enfant, je n'ai pas ni enceinte extraterrestre ni vraiment, mais je fais bien regarder les mythes technologiques.
On a déjà parlé tout à l'heure, les êtres jumelles de l'IOT de demain, ils seront plus grands, plus psychologiquement les mêmes, physiquement, seront plus ressemblables, Jean-Louis.
C'est plutôt une question pour Philippe Aubert. Disons que ça dépend justement des présupposés. Dans mon histoire du futur, qui n'est pas celle de suprématisme, qui est celle que j'ai développée sous mon nom dans le roman Jeunesse, par exemple, dont on a parlé plus tôt dans des romans parus au Fleuve Noir, Anticipation, il y a bien longtemps, j'ai décidé justement que pour éviter d'avoir composé avec justement des extraterrestres ou trop d'extraterrestres ou justement trop de variantes humaines, post-humaines et autres. Je te prête ce que Herbert avait fait dans Pour Dune et j'avais essentiellement supposé qu'à la suite d'une troisième guerre mondiale après 2067, 100 ans après ma naissance, donc a priori je ne serais pas rentré là-dessus de mon vivant, il y aurait une réaction sociale qui prendrait à cause, par exemple, de mutation et peut-être d'autres choses, une sorte de fidélité à l'être humain traditionnel tel qu'il était. Et donc, on rejetterait les mutations, les modifications. Il y aurait évidemment toujours des hérétiques, des technophiles, des agnosophistes dans ma société qui, justement, prendraient ce genre de modifications. Augmentation humaine, mais que pendant très longtemps dans mon histoire du futur, les gens resteraient plus ou moins tels qu'ils sont maintenant, avec des durées de vie allongées, peut-être de l'édition des génomes, mais que ça me permettrait de continuer à imaginer des scénarios sociaux et historiques où je pourrais justement m'inspirer de mes propres études en histoire, à la limite, mes lectures en ethnologie, afin d'imaginer ce que ça donnerait sur d'autres mondes, dans d'autres circonstances. Dans ce cas-ci, on est dans un contexte un peu différent, mais de la même façon, on explique au début du roman, Ibn Arumoi, que c'est une décision consciente de rester fidèle, disons, au schéma humain, plus ou moins d'origine, mais il y a des gens qui aussi rejettent cela. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on explique avec
ça, quelque part, pour moi, serait acheté pour tout bien inutile. Donc, le gros intérêt de la science-fiction, c'est que puisqu'on peut inventer des mondes, on peut en montrer le ressort, on peut simplifier le fonctionnement de ce monde, enfin, du monde, dans ce qu'on en montre, même si, effectivement, il faut avoir un arrière-plan assez complexe. Ce que l'on montre, c'est effectivement quels sont les mécanismes, quels sont les rouages qui font qu'une société fonctionne ou pas. Et ça permet de mettre le doigt sur notre propre fonctionnement. Moi, bien sûr, je suis quand même extrêmement frappé en ce moment où les gens s'affrontent sur la loi du travail. Je n'entends pas remettre en cause du tout la notion de travail. L'impression que le travail, c'est de toute façon obligatoire.
Salle de la
et on peut
dire merci.